Il a le droit de donner son impulsion. Il a la possibilité, avec son libre arbitre, qui est un élément fondamental, bien sûr, dans la structure humaine, de proposer, par exemple, le but de sa croisière, le but de son voyage. C'est un choix. Mais vous savez très bien qu'une fois qu'on a acheté le billet et qu'on a pris le bateau ou l'avion, on n'est plus du tout responsable de ce que l'on va rencontrer comme paysage, des êtres que l'on va croiser, des aventures que l'on va pouvoir avoir pendant le voyage, des incidents et même des détails de l'itinéraire. C'est un petit peu cela le chemin de la vie. Une impulsion qui est lancée à chaque fois que nous choisissons une orientation de vie, quelque chose d'important, une carrière, un époux, une épouse, un associé, une création de société, une orientation spirituelle, on donne l'orientation. Elle, elle est liée vraiment au choix de l'être, en pleine conscience, c'est important. Mais tout le reste, lui, il n'est plus sous le contrôle de l'être. On peut subir. Et chacun de ces événements sera bien sûr un ensemble de tests pour permettre à l'être soit de régler les karmas précédents dont nous parlions, soit d'évoluer simplement au travers de l'épreuve qui est systématiquement porteuse d'un plus, porteuse d'un enrichissement. Donc, nous ne créons pas notre mauvais destin, nous pouvons nous diriger vers lui par contre. Voyez la nuance. On ne le crée pas, mais on peut se diriger vers lui dans la mesure de nos choix plus ou moins éclairés, plus ou moins lucides. C'est important aussi. Une des premières conclusions qu'on peut déjà tirer, c'est que plus tôt nous liquiderons les dettes, et plus tôt nous serons libres de créer de nouvelles structures positives, de nouvelles expériences positives, donc de mieux nous libérer. Dans les Écritures, on trouve que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On dit ça aussi d'une façon assez populaire. Ou bien, avant que le soleil ne se couche, va te réconcilier avec ton frère. Bien sûr, ce soleil couchant, c'est le soleil de la vie. Ce n'est pas dans les 24 heures que l'on va pouvoir se réconcilier. Heureusement, le délai est là dans cette existence. On a quand même quelques dizaines d'années devant nous pour régler nos comptes. Vous savez combien c'est important en psychologie, j'en ai parlé longuement ici et dans d'autres sujets, notamment au niveau du couple et des règlements de comptes parentaux. C'est fondamental, comme loi vraiment de croissance. Devenir adulte, c'est aussi couper tous ses ponts, toutes ses influences, et donc régler ses comptes, c'est important. Sur Terre, tous les arrangements sont possibles encore, mais dans l'au-delà, il n'y a plus d'arrangement à l'amiable possible. Les lois karmiques sont les lois les plus implacables que l'on puisse imaginer, les plus froides que l'on puisse imaginer. Les lois karmiques correspondent dans la structure de l'univers à l'opération d'un ordinateur froid, lucide et implacable. Ce grand ordinateur constitue, dans la Kabbale, très très haut dans l'arbre de vie, en liaison avec les seigneurs du karma, comme l'appelle la tradition, ou les 24 vieillards, tels que l'appelle la Bible. Ces hiérarchies, ces forces sont des forces de lumière, des forces d'une froide lumière, si l'on peut dire, et qui, heureusement, sont complémentaires des forces d'amour, de grâce et de pardon. Mais ce qui est du domaine du karma est du domaine du karma, ce qui est du domaine de la grâce est du domaine de la grâce. Donc, je vous invite vraiment à faire le tour de vos dettes, au moins conscientes. On est toujours beaucoup plus indulgent pour les dettes inconscientes. Il y a des circonstances atténuantes, comme on dit. Mais, et réglez-les dans cette vie. Les grands maîtres, les grands initiés, nous disent souvent ce message. Vous qui cherchez la foi, ne cherchez pas. Vous qui cherchez à croire, ne plongez pas dans les livres sacrés. Ne plongez pas dans les sciences occultes. Ne vous occupez même pas de votre foi. Ne vous occupez même pas de l'existence de Dieu. Mais s'il y a une chose à faire, s'il y a une seule chose importante à méditer, à comprendre et à intégrer, c'est la loi du karma. C'est la loi des causes et des conséquences, la loi des causes et des effets. S'il y a une chose importante, c'est de comprendre qu'il y a un enregistrement total et permanent de toutes nos pensées, actions ou désirs. Qu'il y a un enregistrement parfait, un magnétophone, un vidéo, si vous voulez, tellement parfait qu'il intègre toutes les informations de toute notre structure personnelle, et que cette loi de l'enregistrement fait que rien ne peut s'oublier, que rien ne peut être lié au hasard, et que, pardon, dans la grande structure de l'univers, tout a sa place, chaque grain de sable a son importance, et rien ne peut être laissé au hasard. Cette grande mémoire, donc, on la retrouve définie par les grands savants actuels. Quand Charon parle des millions d'années qui sont en nous, dans chacune de nos cellules, dans la mémoire de nos chromosomes, dans la mémoire située à l'intérieur même de l'espace de nos noyaux cellulaires, cette espèce de grand vide, cette espèce d'océan cosmique que l'on retrouve à l'intérieur même des mini-trous noirs que sont nos espaces intra-atomiques, eh bien, certains grands savants, vous le savez, j'en ai parlé souvent ici, commencent à y percevoir une intelligence, une grande mémoire qui fait de nous les héritiers de millions d'années. Cette mémoire personnelle, les occultistes, les voyants, les clairvoyants, les médiums, les maîtres, les initiés, les prophètes, nous disent qu'elle est stockée dans le cœur, dans la pointe inférieure du ventricule gauche. C'est très précis. C'est un atome. Un atome germe, un atome de nature spirituelle que j'aime bien comparer à la boîte noire des avions. Cette boîte noire qui enregistre tout pendant le vol et que l'on peut retrouver si l'avion a un accident et comprendre ce qui s'est passé pendant le vol. Cet atome, alors que tout le reste est périssable en nous, au niveau physique, au niveau énergétique, cet atome va être capable de garder, de transmettre l'information d'une incarnation à une autre. Elle est liée à toute une forme de plan, tout un plan de notre énergie qui est l'éther réflecteur, notre quatrième plan éthérique, donc assez à distance du corps physique, et qui permet le stockage de toutes les informations à partir du souffle, du premier souffle, qui est le souffle de vie à la naissance, jusqu'au souffle que l'on rend le dernier. C'est par cette imprégnation du souffle à travers le sang, qui est le véhicule du moi, de l'être, que ces informations stockées vont permettre, vous le verrez tout à l'heure, toutes les régressions possibles, toutes les remontées d'informations dans des conditions plus ou moins normales. Le maître Omra Mikhail Ivanov, qui a beaucoup parlé sur le karma, la destinée, le destin et la réincarnation, dit dans un petit livre qui est L'homme à la conquête de sa destinée, je vous conseille vivement, qu'il y a quatre classes de personnages sur Terre. La première classe sont les personnages sans moralité, les personnages les plus vils, les plus grossiers, les moins évolués, qui par leurs fautes, par leurs erreurs, par leurs transgressions des lois naturelles, se créent donc un karma et la punition est directe, la punition toujours entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire la simple conséquence de ces actes est directe. La punition voudrait dire qu'il y a un dieu méchant, vengeur, jaloux. Or, c'est par amour que le karma est là. C'est par amour que le karma nous permet justement de prendre conscience, d'étendre notre conscience et de nous parfaire sans cesse. Donc c'est la première classe de personnes, elle est soumise vraiment au destin en permanence en fonction de ses erreurs. La deuxième classe de personnages sont ceux qui prennent conscience des notions d'évolution, qui prennent conscience des notions de l'éthique et qui font des efforts. Ils font des efforts pour évoluer, mais bien sûr, comment une seule vie serait-elle nécessaire et suffisante? Une seule vie, bien sûr, permet de régler un certain nombre de comptes, mais devenir parfait comme le Père Céleste est parfait, c'est quelque chose d'aberrant, bien évidemment. La troisième personne, le troisième personnage, c'est celui qui, dans cette incarnation, a peu de karma résiduel. Il se fabrique donc très peu de karma de contingence aussi. C'est une âme évoluée, c'est une vieille âme, comme on l'appelle. Et elle est capable, là, ayant peu ou pas de karma personnel à régler, de prendre le karma d'autrui. C'est le véritable sens d'un sacrifice christique. Enfin, une dernière classe de personnages qui choisit de se réincarner sans aucune tâche, sans aucun karma personnel, et qui décide par libre arbitre et par compassion de se réincarner par amour pour aider les frères humains. C'est l'exemple de certains martyrs, c'est l'exemple de certains saints, de certains miraculés. C'est l'exemple, on le verra tout à l'heure, de l'aveugle biblique dont nous parle Matthieu. Et cette incarnation peut se faire dans un corps, bien sûr, comme vous et moi, mais elle peut se faire aussi au travers le corps de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'adombrement, le phénomène de la possession, mais au sens lumineux, au sens positif du terme. Des êtres qui, pendant une période de leur vie, vont être adombrés, c'est-à-dire que de grands esprits vont parler à travers eux, vont les utiliser parce qu'ils n'ont pas le temps de se refaire une croissance complète en passant par le petit enfant, l'adolescent. Ils ont besoin de quelqu'un qui a telle profession, telle action sociale, par exemple, et l'outil est déjà tout prêt, et on parle au travers de ces personnes. La notion de karma est éclairée aujourd'hui, comme depuis une vingtaine de générations, donc depuis longtemps, par le Tibet et par la succession régulière des maîtres tibétains, des Dalai Lamas. Les Dalai Lamas tibétains, vous le savez peut-être, ne sont pas choisis par un conseil, tel qu'un président peut l'être dans nos sociétés, ne sont pas élus par qui que ce soit, mais sont la réincarnation vivante du Bouddha, du premier Dalai Lama en tout cas, d'un être libéré. Et le plus intéressant pour nous occidentaux, c'est que depuis quelques années, depuis au moins en tout cas les deux dernières générations, et également pour d'autres lamas très évolués, sans être le Dalai Lama, des manifestations donc de preuve de la transmigration de l'âme de ces êtres libérés ont été données à la presse occidentale. Et dans les dernières années, vous n'avez pas été sans remarquer. Bien sûr, on n'en parle pas souvent à 20h au journal télé, hein, on en parle plus tard, on en parle quand le public est réduit, ou avant 7h du matin, c'est là que les informations intéressantes arrivent aussi. Et voilà comment les choses se passent. Lorsque le Dalai Lama sent la mort venir, il connaît bien sûr, comme tous les êtres libérés, la date et l'heure de son départ physique. Il appelle son conseil, et après une longue méditation, une longue retraite, il dit à son conseil, voilà, dans tel pays, en telle année, je vais revenir. Je vais me réincarner au travers de tel enfant. Il faudra me reconnaître. Et le temps passe, bien sûr, on fait les recherches. Ça ne se passe pas toujours au Tibet, le dernier était en Espagne, on est allé le rechercher en Espagne. De famille chrétienne. Alors imaginez cette famille chrétienne qui a un enfant tout à fait normal, entre guillemets. Un petit bambin qui a peut-être les yeux un peu plus bridés que les autres. Et la délégation d'hommes d'église tibétaine qui arrive et qui explique, qui essaie d'expliquer ça aux parents. Imaginez le choc. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a vu le film, c'était remarquable. C'était très émouvant, bien sûr. Mais il a fallu que la mère laisse partir cet enfant. Et que ce petit enfant, qui avait 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, est une éducation très particulière qui est réservée aux lamas, qui, très très jeunes, sont initiés aux textes sacrés, aux rituels, à des rituels de purification particulière, à des enseignements très particuliers qu'on réserve donc aux chefs religieux. Et ceci se perpétue depuis une vingtaine de générations. Comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment lui? Comment est-on sûr que c'est vraiment cet enfant? Eh bien, c'est là que l'histoire est intéressante. On amène l'enfant dans le palais de l'ancien Dalai Lama. Petit espagnol, bien sûr, il n'est jamais allé là-bas. Il ne parle même pas le tibétain, c'est évident. Et pourtant, on va le soumettre à des tests. Ces tests sont simples, ils sont de deux natures. On va lui demander de reconnaître des objets qui ont appartenu à son incarnation précédente. On va mettre devant lui, par exemple, une douzaine d'ustensiles quotidiens, de table ou de toilette, mélangés, bien sûr, avec plein d'objets n'ayant pas appartenu. Il n'y en a qu'un qui a appartenu dans les 12. Et on demande à l'enfant de reconnaître quel était le sien. Et il va droit vers celui qui était le sien. Et puis le deuxième test, c'est de lui dire, voilà, on va se promener dans la ville, on va se promener dans le palais, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Et le gosse doit dire, voilà, ça c'est la salle de bain, ça c'est la salle du conseil, ça c'est tel et tel bureau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque? Etc. Et quand on estime que les preuves sont suffisantes, car généralement, vous imaginez bien qu'il y a plusieurs enfants qui naissent dans la même ville à la même époque. Donc il se peut qu'il y ait une vingtaine de gosses qui arrivent au Tibet pour subir les tests, et il n'en reste qu'un en dernier ressort, qui reçoit donc l'éducation du grand lama. C'est, sur le plan contemporain, je crois, un des éléments de preuve les plus troublants aujourd'hui. Un autre élément de preuve intéressant fait intervenir le raisonnement. Le raisonnement qui observe les différences humaines. Telle personne reçoit toutes les richesses, telle autre est pauvre et misérable. Telle personne est une beauté sur qui tout le monde se retourne. Telle autre fait peur et a beaucoup de mal à ne pas se cacher le visage. Tel être a des dons exceptionnels, et l'autre est le pire des tarés. Et l'explication théologique occidentale est très embêtée lorsqu'on lui dit cela. J'ai parlé à plusieurs prêtres, j'ai parlé à des hommes d'église, j'ai parlé à des hommes élevés dans la hiérarchie religieuse. Leur réponse est toujours la même. Après une période de trouble, on répond, c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le mystère de Dieu. Et si sa volonté est telle, on peut se dire qu'il y a quelque part une injustice absurde. L'intellect humain et le cœur humain sont incapables de comprendre cette justice humaine, si elle est telle. Et puis, pourquoi, dans ce cas, Dieu manifesterait-il sa colère, sa punition, et comme on nous l'a promis au jugement dernier, les enfers, si cet être qui n'a pas été doté par le divin de qualité se conduit mal? Comment reprocher à quelqu'un qui a eu tous les malheurs dans sa vie de ne pas être un peu délinquant? Comment être aussi sévère avec celui qui n'a aucun don qu'avec celui qui les a tous? Donc, soit Dieu est responsable de tout, et l'homme ne peut pas comprendre cette responsabilité avec autant d'images d'inégalité, et il les punit s'ils se comportent mal, s'ils sont impies, criminels ou blasphémateurs, alors que tout est là, et que peut-être ils n'ont jamais entendu parler même d'une écriture, d'une Bible ou d'une bonne action. Il y a quelque chose qui dépasse complètement la conscience humaine, complètement. Et si l'on admet, si l'on s'ouvre, ne serait-ce que comme une hypothèse de travail, la réincarnation, la justice karmique, la liberté, là, va intervenir avec une autre couleur, et le don ou la mauvaise fortune vont s'expliquer simplement comme une étape dans un long cheminement de l'âme et comme la juste rétribution d'un certain travail passé. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est une petite phrase populaire qui est tout à fait en liaison avec la justice karmique. Et tous les agriculteurs le savent. Aucun agriculteur n'attend voir pousser du blé s'il a semé du seigle. C'est d'une logique absolue, ça. Or, vous savez que les initiés nous ont toujours aidés à comprendre les grands mystères en étudiant le livre de la nature et par la loi de l'analogie. Voilà un raisonnement analogique. Je sème le vent, je récolte la tempête, comme je sème du blé, je récolte du blé. Des évidences comme celle-là vont peut-être parler plus à certaines personnes. Le professeur Marchessault, qui avait dans ses travaux édité certaines choses aussi sur la réincarnation et le karma, parvient aussi à ces mêmes conclusions. Il appelle ça la preuve par la raison. Et il dit en toute simplicité, Dieu est parfait. Or, un Dieu parfait ne peut être que Dieu d'amour, de justice et de bonté. Comment admettre dans ce cas la perfection d'un Dieu qui considérerait les inégalités de naissance? Et ces inégalités de naissance, vous le savez, sont des arguments que les athées cultivent. C'est ce qu'on nous laisse, c'est ce qu'on nous lance dans les dents, nous autres spiritualistes. Comment voulez-vous qu'il y ait un Dieu avec tant de guerre? Comment voulez-vous qu'il y ait un Dieu avec autant d'injustice? Aucune explication théologique cohérente ne vient à bout de cette contradiction, nous dit Marchessault, entre la justice du Créateur et l'injustice apparente de la création. La doctrine de la réincarnation lève cette contradiction, car les êtres humains ne peuvent plus naître égaux du fait qu'ils ont déjà vécu. Enfin, Dieu, maître de nos destinées, nous laisse malgré tout une certaine liberté d'action, et l'épreuve d'une seule vie terrestre est parfaitement injuste et ne permet pas l'éveil de la conscience. Comment s'éveilleront à la conscience tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Écriture sacrée? Comment s'éveilleront à la conscience d'une justice divine tous ceux qui sont dans des conditions d'obscurantisme, de pauvreté, d'illettrisme total? Or, la conséquence un petit peu de cela et la suite logique, c'est qu'il y a une disproportion totale entre la faute commise et la punition. Les Écritures, si on les prend au pied de la lettre, nous disent que le péché dit mortel va donc nous amener à un jugement dernier et à une peine éternelle pour quelques minutes ou quelques années d'erreur. La disproportion, là aussi, ne peut pas faire partie de la justice. C'est quelque chose qui choque la raison. S'il y a justice, il y a parfaite égalité entre une durée de faute et une durée de punition, entre guillemets. Alors faisons un rapide panorama de ce que pensent les anciens, de ce que pensaient les anciennes traditions. Et je me suis penché, vous savez, depuis quelques jours dans une quarantaine de livres, qui sont une toute petite partie de la littérature existant actuellement sur le karma et la réincarnation. Alors, on peut dire que la pensée primitive, c'est-à-dire celle des anciennes religions, animistes, totémistes, le totem étant l'objet support de certaines forces, donc la pensée primitive africaine, celte, égyptienne aussi bien sûr, druidique, odinique, Odin, les civilisations du nord de l'Europe, de même que les civilisations aztèques, maya, inca, affirmaient eux, elles, toutes, la réincarnation comme un dogme. On s'y étend très très peu, c'est un dogme de foi. On croit simplement que les âmes reviennent et que ces âmes sont errantes entre deux incarnations Et c'est la raison pour laquelle on institue beaucoup de sacrifices. Des sacrifices humains, animaux, pour les apaiser, voire pour les consulter. Et beaucoup d'oracles, là, sont nés de cette façon. Et c'est aussi, à notre époque, l'origine du spiritisme, pourrait-on dire, hein, de la consultation des plans inférieurs de l'astral. Et puis, les religions occidentales, modernes, à présent, après l'extinction du mouvement gnostique sur lequel on va revenir, c'est-à-dire au VIe siècle après Jésus-Christ, parlent alors de résurrection. On ne parle pas de réincarnation. Bien sûr, on pourrait employer un autre terme. Le mot réincarnation lui-même a été fabriqué de toutes pièces par Alain Kardec. Donc c'est fin 19e. Mais on aurait pu évoquer les choses avec un autre mot. Non, là par contre, on parle toujours de résurrection, avec deux choses importantes à retenir. Résurrection en une fois, donc pas de transmigration, de corps en corps, et corps et âme. Corps et âme. Ça, c'est important. Après le jugement, donc, qui fait partie de l'enseignement, et ça, on le retrouve dans le christianisme, dans son ensemble, sauf dans quelques branches orthodoxes, un petit peu marginales, et dans l'islam. Retenez aussi que dans ces traditions occidentales, donc, la notion de péché est importante, et que la notion de culpabilisation est importante. Les religions orientales, elles, avec en particulier, bien sûr, la racine indienne, l'hindouisme, la racine tibétaine et la racine chinoise admettent la notion de réincarnation avec certaines nuances telles que la métempsychose, qui est une déviance assez partielle, admettant, elle, la transmigration de l'âme, non seulement de corps en corps selon une évolution, mais pardon, la possibilité d'habiter aussi des animaux, des végétaux, des minéraux. Donc, une évolution massive d'énergie montant de tous les règnes, hein, et se mélangeant d'une façon assez floue. De culpabilité, on parle d'illusion, d'erreur et de responsabilisation. Là, le mot est important. Responsabiliser quelqu'un, c'est très, très, très différent de la culpabilisation, bien sûr. Et puis, il y a en parallèle à cela ce que l'on peut appeler les écoles ésotériques, les écoles initiatiques, avec, pour ne citer que les principales, les trois ou quatre ou cinq, maintenant même, branches de la Rose-Croix, tels qu'on les connaît, la théosophie, bien sûr, avec HPB, hein, Elena Petrovna Blavatsky, avec Annie Besant, sa disciple, et puis une école parallèle avec Alice Bailey en Angleterre. L'anthroposophie, grande troisième école avec l'enseignement de Rudolf Steiner, dont nous reparlerons. La Fraternité Blanche Universelle, avec le maître Peter Denov, puis le maître Moine Michael Ivanov. Le mouvement du Graal, avec le maître Abdruchin. Certaines loges maçonniques. La Nouvelle Acropole. Les yogas, qui sont des écoles, bien sûr, ésotériques tout à fait intéressantes, et dont on ne peut pas ne pas tenir compte sur le plan historique, hein, et sur le plan géographique. Sans parler de ce que l'on peut nommer la famille de tous les occultistes, c'est-à-dire les mages blancs, les astrologues, les kabbalistes, les tarologues, les alchimistes, les spirites, les médiums, etc., dont Papus, qui a écrit un énorme pavé sur la réincarnation, qui est peut-être ce que j'ai jamais feuilleté d'aussi gros et d'aussi impressionnant sur la réincarnation. Alors, on ne va pas détailler tout cela, bien sûr, mais c'est important de voir qu'il y a, en filigrane, dans tous ces enseignements, les mêmes vérités, les mêmes traits d'explication de la création de l'univers, de la constitution occulte de l'homme, et qu'on retrouve partout la dimension du karma et de la réincarnation. C'est quand même important de voir que tous ces êtres, qui étaient pour la plupart ou de grands médiums, de grands clairvoyants, des prophètes, des maîtres de sagesse et de compassion, des maîtres ascensionnés, revenus guider les humains, de grands clairvoyants, sont parvenus aux mêmes conclusions. La pensée théosophique, par exemple,